1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air? Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Ich nehme keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann. Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann.
SLP, salut les PD. Émission de mai, amis auditeurs, bonjour. Toute l'équipe de SLP est à bord. Salut Ariane, salut Ghislain, comment
bonjour
allez-vous
Philippe.
Salut Philippe.
Tout et va bien. On a un super invité pendant tout le mois. On a Pascal qui est avec nous. Pascal de l'émission En Marge sur RPH, c'est ça?
Et pas que.
Et pas que, vas-y, entre autres.
Cite toutes les radios sur lesquelles tu es multidiffusé. Regardez le professionnel.
Salut d'abord.
Bon, alors non, cite toutes tes émissions. Non, tu veux pas les citer? Au moins
si, quelques-unes.
Celles
si,
que
si.
Tu préfères.
Bah, moi, j'aime bien ces Radio Larzac, Radio Sainte-Afrique, aussi, qui nous sont très proches. Après, il y en a plusieurs, ouais, jusqu'à Québec, à Québec, Radio de Québec.
Ah, carrément.
La ville.
Mais
la
tu
ville
voyages
de
loin.
Par contre, ils veulent pas de moi à Montréal. Je sais pas pourquoi.
Ils veulent pas de toi à Montréal.
Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je passe bien à Québec, mais pas à Montréal.
Bon, en tous les cas, on est ravis de t'avoir.
Un petit peu partout, okay. Oui, dans le sud.
On est ravis de t'avoir avec nous pendant tout ce mois de ce beau mois de mai. Enfin, on l'espère beau.
Pour commencer,
pour commencer, c'est pas terrible.
Celui où les fleurs
volent. C'est ça. Voilà. Et ce mois-ci, on prend un thème gravissime. La droite a-t-elle gagné la bataille des idées?
Attends, moi je veux la formulation de Pascal. Vas-y,
la
Pascal, refais-nous ton titre à toi.
Je vais me la rappeler, attends. Bataille idéologique ou d'idéologie, guerre des extrêmes.
Voilà.
Carrément.
Voilà, la voilà.
S'il te plaît, sachant que t'es théâtral.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, tu
ça envoie, il va falloir être à la hauteur. Alors, on le décline en quatre thèmes. Première semaine, politique. Deuxième semaine, sociétale. Troisième semaine, on va parler rapport au travail. Et quatrième semaine, pour faire plaisir à Ariane,
et à
sexualité.
Tout le monde, s'il te plaît.
Ariane, entre autres. Voilà. Aujourd'hui, donc, on parle politique. Et moi, je vous propose, pour commencer l'émission, d'écouter un politologue qui, j'allais dire, qui défraye la chronique. Peut-être pas encore tout à fait ça, mais en tous les cas, qui bouscule un peu les idées reçues. Alors, je vais vous faire écouter un son qui date maintenant d'il y a presque 2 ans. C'était lors d'un petit matin de France Inter. Il est interviewé par Audrey Poulvard. Et ce politologue, il s'appelle Gaël Brustier. Et bah, j'en dis pas plus. On l'écoute et on revient en débattre après.
Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio. Alors, c'est un long voyage, hein, ce voyage au bout de la droite, qui commence aux États-Unis, où la transformation de la droite en force de contestation est spectaculaire. Et c'est d'ailleurs l'un des premiers paradoxes que vous soulignez, le fait que la droite ne soit plus une force de réaction, mais bien de contestation.
Effectivement, c'est-à-dire que la droite aujourd'hui, le processus de droitisation parvient à combiner la conservation, le conservatisme et l'esprit contestataire. On l'a vu encore hier, c'est-à-dire que l'expression de plus en plus en Europe de la contestation de l'ordre établi ne se fait pas sur un imaginaire collectif de gauche, mais se fait sur la base d'un imaginaire collectif de droite. Et c'est en cela qu'il faut resituer les évolutions françaises, non pas dans un cadre purement arithmétique qui nous empêcherait de voir la réalité de ce qui se passe en profondeur, mais en le resituant dans un cadre européen élargi, en regardant ce qui s'est passé en Autriche, ce qui se passe d'une certaine manière en Allemagne, ce qui se passe en Italie à plus forte raison, ou ce qui se passe même aux Pays-Bas ou en Belgique.
Une contestation de cette nouvelle droite assumée, dites-vous, qui ne concerne pas que la frange de l'électorat traditionnellement considérée comme conservatrice, c'est-à-dire plutôt des personnes âgées. Ça concerne aussi des jeunes et des jeunes adultes qui sont en âge de voter et de s'exprimer.
Exactement. Elle est multiforme, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à une série de publics tout à fait différents. En France, évidemment, on voit très bien le fait que les ouvriers ruraux, par exemple, et les jeunes ruraux qui se sentent délaissés et sentent qu'ils n'existent pas aux yeux des élites, se saisissent du bulletin de vote d'extrême droite pour manifester leur désir d'existence. C'est un vote des illégitimes sociaux, en fait, qui se manifeste et qui n'est pas propre à la France. Hein. Mm-hmm. En mars dernier, en Italie, Bossi, leader de la Ligue du Nord, disait triomphalement dans le nord de l'Italie, plus aucun électeur ouvrier ne vote à gauche.
Alors, autre paradoxe, vous nous rappelez combien les néoconservateurs américains, tout comme certains membres de la droite revendiquée en France, viennent de la gauche.
Oui.
J'allais dire comme leur électorat, finalement.
C'est un fait. Le processus de droitisation a commencé chez ce qu'on appelle les sociaux libéraux, les néoconservateurs, qui, aux États-Unis, sont très liés, pour des raisons américaines, à la working class et au mouvement ouvrier américain, mm-hmm. et qui étaient ce qu'on appelait les démocrates de guerre froide, c'est-à-dire très libéraux sur le plan sociétal, des mœurs, plutôt favorables à l'IVG aux États-Unis.
Libéraux
à la base,
au sens américain.
Au sens américain, plutôt à gauche, mais en même temps extrêmement anticommunistes. En mm-hmm. France, les néoconservateurs sont un mouvement plutôt élitaire, plutôt situé dans les élites. Nous, on se plaît à rappeler les citations du groupe Lerita Mitsuko, par exemple, qui avait vraiment dérivé vers les idées néoconservatrices, et c'est un imaginaire collectif qui définit l'Occident comme étant en danger, menacé par le monde musulman notamment, par le choc des civilisations, et qui a puissamment influencé la droitisation du débat politique en France.
Avec une frontière de plus en plus mince et poreuse entre droite et extrême droite.
Avec une frontière de plus en plus poreuse, par le fait que Jacques Chirac et Alain Juppé ont dissous l'appareil gaulliste, l'appareil à la fois organisationnel et l'appareil idéologique. L'appareil idéologique gaulliste, c'était autorité-égalité, mm-hmm. Et on est arrivé à un système d'autoritarisme inégalitaire sous Sarkozy, qui a donc rompu les digues, en fait, avec l'extrême droite de la famille Le Pen.
Alors, la responsabilité de ce phénomène, elle est aussi évidemment à gauche, et on finit parfois par se demander finalement si la honte, entre guillemets, n'a pas changé de camp. Ce que vous nous expliquez, c'est à quel point pendant longtemps il était assez presque honteux justement de se dire de droite, et aujourd'hui finalement
presque difficile,
il est difficile de se dire de gauche et vraiment de gauche.
Oui, il y a une question. Nous, on a relu un petit peu Gramsci, ce que devraient faire un peu les leaders des partis de gauche, et nous pensons qu'il y a un combat culturel à mener. Il y a un imaginaire collectif alternatif à établir. Le problème qui se pose aujourd'hui aux forces de gauche en Europe et en France en particulier, c'est le fait que l'imaginaire collectif étant passé à droite, il faut être capable d'en développer un concurrent qui soit à gauche. C'est extrêmement compliqué. Mais si ça n'est pas fait, la bataille est perdue d'avance d'une certaine manière.
C'est incroyable ce que vous nous dites, l'imagination au pouvoir de droite.
Oui, mais la droitisation est un processus de recomposition permanente des droites. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il est à la fois contradictoire, mais il est extrêmement efficace dans la mesure où il crée nous ce qu'on appelle un oligopole droitier. Vous avez plusieurs droites qui mmh. cohabitent, les vieilles droites conservatrices, vous avez les droites entre guillemets nationales populistes que Marine Le Pen incarne d'une certaine manière aujourd'hui, et puis vous avez ces droites qu'on appelle nous hédonistes sécuritaires, c'est-à-dire ces gens qui sont un peu les enfants de mai 68, qui veulent jouir sans entrave mais qui demandent surtout un appareil sécuritaire renforcé pour leur permettre de le faire. Donc vous avez une recomposition et des concurrences et des complémentarités, mais qui mettent la gauche, hélas, pour l'instant, sur le plan idéologique et symbolique, de côté.
Oui, parce que vous dites aussi que les néoconservateurs croient aux idées, que c'est là leur force. Et pas à la gauche. À gauche, on ne croit plus aux idées, on n'en a plus.
Il y a des idées de gauche, il y a des gens qui défendent des idées à gauche. Néanmoins, il y a une moindre capacité à établir un bloc historique, comme disait Gramsci, à développer une vision du monde collective. La force de la droite, c'est de définir une vision du monde du coin de la rue à Kaboul, avec tous ses dangers. En trois phrases, un homme de droite vous a expliqué sa vision du monde. À gauche, c'est beaucoup plus difficile.
Alors, le politologue, je rappelle, c'est Gaël Broustier. En fait, il a écrit en collaboration avec un de ses collègues, Jean-Philippe Huellin, plusieurs ouvrages, mais celui dont il est question là, c'est « Voyage au bout de la droite ». Et ça date de pratiquement 2 ans déjà, je crois qu'il est sorti au printemps 2011. L'interview avec Audrey Poulvar, elle date d'un an. Et à l'aune des derniers événements, je trouve que c'est d'une actualité brûlante. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Il y a plein d'éléments, que ce soit un des trucs qui a fait sourciller Pascal pendant le son, qui est le rapport à la jeunesse, et aussi ce côté sur l'imaginaire, ça donne à penser, quoi.
Il y a de l'analyse. Quand même, il y a deux choses, déjà, de ce que j'ai entendu là. Premièrement, on va le dire comme ça, disons, la récupération des idées, parce que je ne crois pas que la droite ait eu beaucoup d'idées.
Mais elle les garde bien.
Mais par contre, sont très très forts pour recueillir les idées, les décortiquer, voir comment on peut s'en servir.
Il y a ça, ouais, tout à fait. Et puis finalement, moi, le sentiment que ça me donne, c'est que les idées de la droite, finalement, elle n'a pas forcément développé beaucoup, puisqu'on est dans un système notamment politico-économique ultra-libéral qui correspond aux idées de la droite. Ah,
mais c'est aussi le propos qu'on a eu avec les travaux de Monique Wittig, où la droite est propriétaire du matériel de transmission de la pensée, que ce soit la maison d'édition, les journaux, etc. Et donc le langage, le matériau linguistique qui est utilisé pour véhiculer tout un tas de choses, il participe de cet univers symbolique, etc., qui correspond à ce... Moi, ça m'a fait vraiment écho à ça d'entendre, oui, on n'a plus on n'arrive plus à véhiculer dans l'imaginaire collectif l'imagination d'un monde autre, et donc avec des idées de gauche comme...
qui soit différente, quoi. Oui.
Voilà. Et c'est vrai que ça correspond vraiment à des impressions que j'ai, puis aux aspirations que je pourrais avoir de donner à penser que oui, ça pourrait être autrement. Du coup, je vais sauter sur les pages qui sont ouvertes à côté de moi, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je suis allée voir l'exposition qui est en ce moment au Pavillon Populaire à Montpellier jusqu'au 9 juin sur le Front Populaire, parce que du coup là on a des images on a des images de tout le mouvement de grève, des manifestations d'ailleurs des deux camps, hein, et on voit que ça a existé, qu'il y a eu une mobilisation très forte. Et moi, l'histoire du Front Populaire, c'est une histoire que je connais très mal. Je suis incapable de me souvenir en quelle année en classe j'étais censée voir traiter ça, mais
est-ce que tu l'as seulement traité en classe?
J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voulait pas que je sache, quoi, franchement, parce que c'est quand même un mouvement. Enfin, moi, quand je suis ressortie, je me suis même dit que faire cette exposition, c'était un acte politiquement extrêmement fort, parce que moi, je suis sortie de là, je suis dit ouais, quand est-ce qu'on le fait, nous, quoi. Et donc voilà, je recommande très chaudement d'aller voir ces images. Il y a aussi des films, il y a des sons. Et je trouve ça assez stimulant, voilà, de voir des images documentaires, hein, c'est pas de la fiction, de ce mouvement qui a existé.
Ouais, mais alors, tu vois, c'est, le deuxième point, c'est la jeunesse. Et c'est peut-être là que se pose la question. Enfin, pour moi, peut-être que je poserai la question, à savoir qu'en ces époques plus reculées, disons qu'un mouvement de gauche avait une certaine représentation pour les jeunes, voulait dire quelque chose. Et or, aujourd'hui, on l'a vu aux dernières élections d'il y a un an présidentielles, qui accumulait le plus le vote des jeunes, c'est quand même l'extrême droite. Et là, oui, ça fait quand même beaucoup de questions, poser beaucoup de questions, même si en deuxième, c'est le PS. Mais le PS est-il vraiment un mouvement de gauche? On peut se poser, pas seulement le phénomène Hollande, hein, qui peut amener à se poser des questions, mais ça fait quand même déjà un bon moment que ça dure, je veux dire. Voilà. Et là, en d'autres temps, effectivement, il y avait une réalité idéologique pour un jeune quant à obtenir par le mouvement de gauche des améliorations. Ouais. Voilà. Alors que maintenant, pour beaucoup de jeunes, être gauchiste, c'est être ringard. Mmh.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est les enfants des années 80-90 hein, qui n'ont connu rien d'autre que, encore une fois, voilà, c'est malheureusement les héritiers des ères Reagan, Thatcher, finalement.
Ouais, je vais rebondir parce qu'il me fait des signes.
Je permettais parce que ça, ouais, je trouvais que ça se rejoignait quand même.
Je vais faire les deux. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, en effet, sur la translation vers la droite des mouvements qui sont censés être étiquetés à gauche, on peut se reporter, par exemple, à l'émission de Daniel Mermet diffusée le 29 avril, qui recevait un politologue pour la sortie en poche de son ouvrage. Il disait très clairement dans l'interview que toute la gauche de gouvernement d'aujourd'hui, donc y compris Parti communiste, serait placée à la droite de Léon Blum, donc la figure de proue du Front populaire. Et pour parler d'une autre période, donc justement de la partie Reagan-Thatcher et de comment les jeunes pouvaient se... Parce que moi, je trouve qu'il y a un truc très intéressant sur comment s'est positionnée Marine Le Pen et comment elle récupère l'électorat jeune, c'est qu'elle se fait passer pour... la nana lambda issue d'une classe populaire. Et c'est ça qui a fait que Janet Winterson, donc qui est d'Outre-Manche, s'est sentie proche de Margaret Thatcher. Donc pourtant, aujourd'hui, voilà ce qu'elle fait. C'est donc une auteure qui est très reconnue Outre-Manche, qui voit ses ouvrages adaptés par la BBC, multiprimés, etc. Donc je vous lis un extrait de, j'adore le titre, hein, je vous donne le titre, « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» Donc il faut lire le bouquin pour comprendre qui lui dit ça, dans quelles conditions, c'est très intéressant. « Ce qui m'a conduite directement à Margaret Thatcher et à l'élection de 1979. Thatcher possédait la vigueur autant que les arguments et elle connaissait le prix d'une miche de pain. C'était une femme. Grâce à elle, j'avais l'impression que moi aussi, je pouvais réussir. Si la fille d'un épicier pouvait devenir Premier ministre, alors une jeune femme comme moi pouvait bien écrire un livre qui trouverait sa place sur l'une des étagères de la littérature anglaise en prose de A à Z. J'ai voté pour elle. C'est un cliché de dire que Thatcher a changé la face de nos deux partis politiques. Le sien, celui des travaillistes dans l'opposition. On a tendance à oublier que Reagan aux États-Unis et Thatcher au Royaume-Uni ont à jamais brisé le consensus d'après-guerre, un consensus qui dirait depuis plus de 30 ans. Retour sur 1945. À l'époque, que vous soyez de gauche ou de droite, en Grande-Bretagne ou en Europe de l'Ouest, il n'était pas envisageable de reconstruire les sociétés en recourant à la vision néolibérale dépassée et discréditée de l'économie de marché. La dérégulation du travail, l'instabilité des prix, l'absence de protection sociale pour les malades, les personnes âgées ou les chômeurs. Il allait nous falloir des logements, du travail en quantité, l'établissement de l'État-providence, la nationalisation des entreprises d'utilité publique et des transports. Les peuples faisaient un grand pas vers la responsabilité collective. Nous prenions conscience que nous devions quelque chose non seulement à notre drapeau, à notre pays, à nos enfants et à nos familles, mais aussi les uns aux autres. Société, civilisation, culture. Cette évolution des mentalités ne découlait pas des valeurs ou de la philanthropie victorienne et ne trouvait pas non plus sa source dans la pensée de la droite. Elle résultait des leçons pratiques données par la guerre. Cela est capital, des arguments supérieurs du socialisme. Le ralentissement économique qu'a connu la Grande-Bretagne dans les années 70, notre sortie du FMI, la flambée des prix du pétrole, la décision de Nixon de supprimer la convertibilité or du dollar, les querelles entre les syndicats désorganisés ainsi qu'une sorte de doute existentiel à gauche, tout cela a permis à la droite, Reagan-Thatcher, de balayer d'un revers de la main ses pesants discours en faveur d'une société juste et égalitaire. Nous allions emboîter le pas de Milton Friedman et de ses amis issus de l'école de Chicago, préconisant un retour au bon vieux laisser-faire de l'économie libérale et maquiller le tout en nouveau dogme. Bienvenue Tina. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. En 1988, le ministre des Finances de Thatcher, Nigel Lawson, a qualifié le consensus d'après-guerre de délire d'après-guerre.
C'est puissant, hein. Enfin...
J'aime beaucoup Janet Winterson. Voilà.
C'est l'époque même là de justement de toute la récupération de l'après-guerre, avec la montée dans les années 50 et 60 vraiment d'idées nouvelles, donc on peut, quand on est jeune à ce moment-là, avoir une autre idée de l'avenir. Moi, j'étais dans le bac à sable dans les années 60. Je peux vous assurer qu'il y a une chanson de Kathleen comme ça, 2008, je ne sais plus quoi. Enfin bon, je peux vous assurer qu'on avait, on délirait quoi, tout gamin dans le bac à sable. On pensait que bon ben voilà, en l'an 2000, voilà notre mur à nous, c'était l'an 2000, l'an 2000. Nous, c'était très loin, mais en l'an 2000, on mangerait tous à sa faim, ouais. Il y aurait des fruits formidables, on pourrait aller chez les uns et les autres, se déplacer, les frontières n'existeraient plus, on irait peut-être sur la Lune. Enfin, c'était ça notre délire. Mm-hmm. C'était ça notre délire. Et ça a été... Mais moi, j'étais gamin hein, dans les années 60. C'est pour ça que je dis, ça, c'est du bac à sable, quoi. Des propos de bac à sable. Mais cependant, c'était pareil. Si on voit d'autres personnes qui plus âgées à ce moment-là et tout, qui ont vraiment cru à autre chose. Et puis, bon, bah, la jeunesse, vraiment jeunesse de l'époque. Moi, je suis jeune dans les années 70 et c'est le moment où, effectivement, je vois les récupérations dont je parlais tout à l'heure, effectivement, commençaient à se faire parce que on a récupéré ça pour en faire une espèce de produit de consommation dans les années 80.
Ouais, tout à fait.
Le hippie des années 60 devenait dans les années 80 un argument de vente pour, je ne sais pas moi, telle robe ou telle.
C'est ça. C'est toutes les révoltes en fait sont transformées. Toutes les révoltes sont consommées.
Voilà.
On va s'en garder un peu pour le thème de la semaine prochaine, là,
oui,
dis donc.
Oui, par exemple. On va faire une pause musicale, on va faire appel à Catherine, par exemple.
Liberté, mon cul. Égalité,
grave. Tu te rappelles pas du titre de cette chanson? Ça s'appelle Liberté, Pascal. Mon cul. Tu veux nous proposer un petit son que tu as fait, Pascal?
Oui, Civilisation, mais je...
Ben on l'écoute.
Je me rappelle plus, on l'écoute.
Ouais.
En ces temps reculés de notre civilisation.
Étrange, étranger.
I have a dream.
Toutes les civilisations ne se valent pas. Toutes les civilisations ne se valent pas.
T'aurais pu prévenir.
J'avais
hein.
oublié ça en fait, j'avais oublié. Et en fait, c'est vachement bien ce son. Parce que moi, on parle beaucoup de conservatisme, de retour aux valeurs conservatrices, le libéralisme et tout ça. Mais moi, je remonterais encore plus loin. C'est-à-dire, oui. J'irais plus loin dans les années 30, on a un peu parlé du Front Populaire, etc. tout à l'heure. Mais j'irais plus loin sur la droite des années 30 en fait. Et je trouve que la droite des années 30, elle ressemble fortement à la droite qu'on a aujourd'hui. J'avais entendu Edoui Plenel Chanel qui parlait sur Nova un jour, qui faisait justement un petit historique et qui disait que, bon, on avait une droite gaullienne jusqu'à présent, avec Chirac, tout ça, jusqu'à Chirac. On avait cette droite gaullienne, voilà, qu'on n'aimait pas trop parce que ça ne correspondait pas à nos idées, notre façon de voir, mais qui restait...
respectable.
Plus ou moins respectable, d'accord. Et avec Sarkozy, on est passé à carrément autre chose. C'était vraiment une césure dans la droite, un changement de direction qui se rapprochait beaucoup dans ce qu'était la droite dans les années 30. C'est-à-dire une droite qui fricote beaucoup avec l'extrême droite, qui est très anti-parlementariste. Et là, on pense à ce que disait Guénot. Et tous ses copains.
Gayès.
Gayès. C'est vrai, très bon, Ariane.
C'est pas de moi.
suite au vote sur la loi pour le mariage pour tous au Sénat, au Parlement, où on remet en cause les parlementaires et tout ça, le défilé avec l'extrême droite, toutes ces choses-là, je trouve qu'il y a quelque chose dans la façon dont évolue la droite aujourd'hui, qui ressemble beaucoup à cette droite-là et qui est assez effrayante.
Complètement effrayant même.
Parce qu'il ne faut pas oublier que les années 30, ça a mené à tous les fascismes en Europe. Hein, tous les fascismes européens, les gros fascistes qu'on apprend en histoire, Franco, Mussolini, Hitler, c'est les années 30.
Oui, oui, tout à fait. Ariane, c'était vous quoi tout ça ?
Non, moi j'avais envie de rester sur un truc quand même avec une certaine mobilisation, et puis on le voit aussi à des niveaux internationaux, au niveau d'une mobilisation vraiment parfois seulement de l'opinion, la force d'une pétition où à un moment la pétition trouvait ça dérisoire, mais quand il y a plusieurs millions de personnes qui signent au niveau international, ça a parfois... même tout simplement sauver des vies, quoi, pas juste parce que le 21 mai, vous pouvez encore voir Free Angela Davis and All Political Soldiers à l'Utopia.
Tu as raison.
Enfin, je sais pas. Et non, moi, j'ai besoin de penser qu'un autre monde est possible, et de mon vivant, de préférence.
Et que la gauche n'est pas seulement, n'est pas que résignée, mais qu'éventuellement, il y a une alternative possible.
J'ai envie de retenir ce qu'on a entendu sur l'imaginaire. Qu'il faut se donner à penser, à imaginer et se donner des images pour rendre palpable, possible, accessible. Parce qu'en effet, si on n'y croit pas, c'est sûr que ça n'arrivera pas, quoi.
Mais on parle de gauche et de droite, etc. Mais il ne faut pas oublier que la gauche, et on l'a dit plusieurs fois à SLP, est quand même assez bien pensante, voire conservatrice sur certaines choses.
Moi, je n'ai pas dit gauche ou droite. Hein. C'est vous mettez des choses dans ma bouche.
On parle droite, de gauche, etc. Il ne faut pas oublier que la gauche, voilà, sur certaines questions de société notamment, est quand même très conservatrice aussi.
Et qu'elle a du mal à tout faire passer certaines lois.
Qu'elle a du mal à les faire passer et qu'elle est, du coup, pour les faire passer, est obligée de faire des concessions inadmissibles. Je pense aux propos de Jean-Marc Ayrault sur la PMA il y a quelques jours, qui sont pas des propos de gens de gauche et d'imaginaire de gauche. On parle d'imaginaire de gauche. Ces gens-là, ils poussent pas, quoi, ça.
De toute façon, ils n'ont pas de représentation d'une autre société, puisque dans le texte sur le mariage, peut-être on en reparlera le mois prochain, mais répéter le terme sexe, c'est ne pas ouvrir à l'abolition du critère sexe dans l'état civil. C'est aussi rester sur le mariage, qui est quand même une institution de conservation du patrimoine. Enfin, voilà quoi.
En fait, ce que tu signifiais, c'était d'être en résistance, peut-être.
Pour moi, c'est pas
une question
résister.
De gauche ou de droite, mais c'est d'être en résistance. T'as quand même des mouvements là qui montent. Ghislain le souligne très bien, que ce soit à gauche ou à droite. Sauf peut-être à l'extrême gauche peut-être, et encore j'en suis pas sûr pour bien des aspects c'est quand même d'être si on veut garder cet imaginaire que tu évoques, c'est quand même d'être en résistance par rapport
en résistance et en force de proposition.
Ouais, voilà,
il nous reste une minute, hein. Je le dis simplement pour conclure, on y reviendra forcément la semaine prochaine, hein, puisque le thème de la semaine prochaine c'est
sociétal.
Donc forcément c'est très en lien avec ce dont on a pu débattre aujourd'hui. Juste pour conclure, tu as un autre petit son à nous proposer, je crois, Pascal.
Ah yes, hein? Sous contrôle.
C'est par exemple.
C'est quoi? Ouais. Qu'est-ce qui est sous contrôle? Je sais plus. Qu'est-ce qui est sous contrôle? Quelque chose sous contrôle.
On en reparlera la semaine prochaine. C'est ça?
De ce qui est sous contrôle ou de ce qui n'est pas sous contrôle. On va se quitter là-dessus en tous les cas.
L'humanité. L'humanité.
L'humanité.
Situation sous contrôle.
Vos paupières sont lourdes. Vos membres, tous vos membres s'engourdissent. Ils sont de plus en plus lourds, de plus en plus engourdis. Tout votre corps est engourdi. Vos mains, vos bras, vos jambes, tout est engourdi. Sombrez, 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 sombrez. Je vais compter jusqu'à tout bras, 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 jusqu'à tout bras.
Changement!
Dormez maintenant.
Tout ça, moi je n'oblige pas, sincèrement, c'est de la merde et on n'en veut plus. J'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils ont qu'à venir le faire à ma place.
De toute façon, ça a pollué parce que, attention, attendez que la gauche pense à EWR en 2012. Attendez que la gauche pense à EWR. Mireille Mathieu, tout ça, tous les mêmes qu'on. On vous lègue.
Le changement, c'est maintenant.
Alors, feignant, là, tu vas aller bosser, merde, on t'a rien demandé, là.
C'est maintenant.